parcours avec l'Église catholique, c'était finalement comme couper le cordon ombilical et devenir adulte. Celui qui tient ces propos est un ancien prêtre ouvrier, un insoumis, qui en 1954, lorsque les prêtres ouvriers ont été interdits, a choisi de rester ouvrier. Bienvenue dans la quatrième étape de cette série d'Avis d'Esprit, qui à travers le témoignage de Jean-Marie Huret revient 50 ans plus tard sur cette page douloureuse de l'histoire de l'Église catholique contemporaine, l'interdiction des prêtres ouvriers. Bastien Meucli signe la réalisation de ces émissions et Catherine Erard est avec vous.
À vue d'esprit.
En 1954, lorsque le Vatican, sous pression du patronat français et aussi par crainte du communisme, décide d'interrompre l'expérience des prêtres ouvriers, ceux-ci se scindent en deux groupes, les soumis et les insoumis. Les soumis obéissent à Rome, ils quittent les usines et restent prêtres. Certains choisissent alors de se battre à l'intérieur de l'Église pour obtenir à nouveau l'autorisation des prêtres ouvriers. Et l'histoire leur donnera en partie raison, puisqu'en 1965, le Vatican autorise à nouveau les prêtres ouvriers. Les autres, les insoumis, désobéissent à Rome. Ils restent dans les usines et sont alors exclus de la prêtrise.
Jean-Marie Huret, avec vous, j'aimerais peut-être évoquer un des passages les plus douloureux de cette histoire. Avec Jo Lafontaine, hein, qui est un des deux prêtres présents au Havre et que vous avez rejoint en 54. Et dans votre livre, vous dites que pour lui, les pressions ont été très, très fortes.
Jo était un Basque. Et je crois qu'au moment où sa mère était très, très malade, il a été à son chevet. Et justement, sa mère, ce jour-là, lui a dit « Si tu te sépares de l'évêque, tu seras rejeté. » Tu seras désavoué et immanquablement tu vas déchoir et deviendras une épave. Ma conscience me fait un devoir de te montrer l'abîme où tu risques d'engloutir ton sacerdoce. Ça, c'était sa maman qui pouvait pas comprendre, quoi. Et puis dans la pression du Pays Basque. Alors, en 55, Jo a écrit à son évêque pour dire qu'il allait se soumettre, enfin que... Mais il était déjà très engagé dans la classe ouvrière du Havre. Et comme il ne revenait pas, tous les copains de son usine et des métallos du Havre lui envoyaient des lettres. Tous ses copains disaient « Si tu lâches la classe ouvrière aujourd'hui, tu ne la retrouveras pas. Elle n'est pas un terrain d'expérience. Or, la classe ouvrière pour toi aujourd'hui, c'est le Havre. Elle a confiance en toi. » On dira encore une fois qu'avec les chrétiens, on est souvent lâché. Ça, c'était les copains du Havre qui lui disaient. Lui, il était écartelé. Et d'ailleurs, il répond toutes vos lettres. Moi, teint profondément. Que s'est-il passé? Je ne domine pas encore assez la situation pour raccrocher les morceaux. Je suis comme terriblement coincé et aplati. Je n'ai pas pris de décision définitive. Jamais je n'ai autant ressenti comment on peut être écartelé, à en éclater et à se vider de la vie. Il m'est impossible d'écrire tout ce que je ressens, en pensant à vous tous. Après tous les tourments dans lesquels je vous ai entraîné et tout le trouble et l'inquiétude que j'ai occasionné, c'est pas possible de passer par où on passe. Il me tarde de vous revoir pour revoir le jour ensemble. Sortir dans la rue ensemble, mais j'ai peur que ça soit pas comme avant. J'ai acquis la certitude presque physique que je ne pouvais plus vivre en dehors de la vie ouvrière. Donc je reste fidèle à la classe ouvrière. Il faudra essayer de détruire le drame du 1er mars et le faux dilemme devant lequel nous avons été et restons placés.
1er mars 54, hein, l'interdiction des prêtres ouvriers. Vous dites que vous vous êtes pas rendu compte... Du dilemme. Il est revenu, il a repris son travail, ça a continué un long moment. Vous avez senti qu'il était en dépression?
On n'a pas tellement senti, non.
Et il a continué à travailler combien de temps encore?
3 ans. On ne s'en est pas tellement rendu compte. Il était dans l'action, il était fidèle à sa tâche, il essayait de reprendre sa place. il a aimé une femme qui, elle, n'a pas voulu. Ça l'aurait peut-être aidé.
Quand vous avez appris sa mort, ça a été pour vous un...
Hein... C'était terrible parce que notre... On était trois. Alors un sur trois qui s'en va dans ces conditions.
Et c'était un suicide ?
On peut jamais dire ça. Hein. On ne sait jamais. On peut pas dire ça. Mais enfin, on a su qu'il avait quitté l'usine dans l'après-midi avec une très très forte migraine, qu'il était rentré chez lui. Et puis, 2 heures après, il était dans le coma. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ?
Vous avez dans votre album de photos, je ne sais pas si on l'a sous les yeux, la photo de l'enterrement de Jo,
où
on
voit... C'est le discours du secrétaire du syndicat. Le secrétaire de l'époque du syndicat des métaux de la métallurgie, le syndicat de la métallurgie du Havre, qui fait devant l'église le discours d'adieu. Et puis tout ça, c'est les copains de sa boîte, et puis de tout le Havre. Passeur de frontières, trop mélangé à tous les hommes au fond de lui, pour s'en aller tout seul cueillir des fleurs de lune. Mais les censeurs du monde, gardiens de leurs frontières, lui prirent son trésor, dont ils ne surent que faire. Ce jour-là, il passa sa dernière frontière. Jo Lafontaine, Jean Lagaraille, Jean Cotin, Bob Latural. Voilà notre groupe.
Vous vous réunissiez tous les combien ?
Une ou deux fois par an. Ça, c'est Bernard Chauveau, qui a été celui qui a fait le tour de France pour regrouper tous ceux qui ne voulaient pas rester tout seuls dans cette situation et qui se disaient il y a quelque chose à faire ensemble. Enfin voilà, ça, c'était tout ça, c'est notre équipe, Jean Lagaraille.
Vous avez continué à pratiquer, à aller à la messe?
Ah non. Non, absolument pas, non. Ah non, on a pu retourner, non. Non, il y a une liturgie qui exprimait plus qu'on était. Non, ça n'a jamais fait beaucoup de questions. Il y a quelqu'un qui disait, moi je lis pas souvent l'évangile, mais il me semble que je le vis, enfin, ou quelque chose comme ça, enfin...
On a vu là dans les réunions de prêtres ouvriers, certains se sont mariés. Pourquoi pas vous ?
On a été quelques-uns. Je ne sais pas du tout si on a eu raison. Hein, moi, de ce côté-là, j'ai des regrets, hein, forcément. Mais on a réfléchi à quelques-uns. Pour que la rupture avec l'Église ait tout son sens, qu'on ne puisse pas dire c'est un tel qui ont eu une histoire de femme et donc ils rompent. Pour des raisons personnelles, on a pensé que la rupture avec l'Église devait s'exprimer dans sa vérité, rupture avec un monde, et avec le monde ouvrier. S'il y avait rupture, c'est à cause de la rupture de l'Église avec le monde ouvrier, et pas une histoire personnelle d'amour déçu ou d'amour... On a été quelques-uns à réfléchir comme ça.
Et vous avez fait ce choix pour ne pas être quelque part récupéré facilement.
À l'époque, oui. Pour qu'on puisse pas dire, voilà, ben oui, il est en rupture parce qu'il a trouvé une femme. Et on voulait que ça ait tout son sens. Et que ce ne soit pas nous qui soyons en rupture avec l'Église, ce soit l'Église qui est en rupture avec un monde. Dans la mesure où on épousait ce monde, on était en rupture avec l'Église. Mais c'était une affaire d'événement historique et pas personnel, quoi. Ce que je vous ai raconté sur le mariage, ça a été dans les débuts, au moment de la tension. Hein. Ouais. Bon, après, on n'a pas forcément maintenu cette condition. Après, c'était fait, la rupture a été faite. Je ne sais pas ce qui serait passé si j'avais... Si une femme m'avait aimé, que je l'ai aimé en même temps, ou vice-versa. Enfin, il n'y a pas eu de... Enfin, il n'y a pas eu d'occasion.
C'était pas un choix un peu volontaire, dogmatique,
non,
de dire...
Pas, surtout pas une vertu. Surtout pas une vertu. Non. Non, non.
Vous vous sentez actuellement hors de l'Église, étranger à l'Église?
Hors de l'Église institutionnelle, sûrement. Sûrement. C'est un fait, ça fait 40 ans que c'est comme ça. Alors c'est un fait, quoi.
Et sans regret?
Non, sans, non. Non.
Vous êtes bien dans votre statut d'ancien prêtre, hors église, vous sentez bien?
Oui, je suis bien, oui. Complètement. Non, c'est une vieille histoire. Non, il peut y avoir des regrets quant à non-paternité ou à... Oui, ça j'aurais pu... Mais enfin, les choses sont comme ça, une histoire, hein. Les conditions, les circonstances d'une vie, c'est... On fait pas toujours ce qu'on veut, hein. Mais je regrette pas le choix fondamental et ce que j'ai vécu, j'aurais pas vécu si j'avais pas fait cette rupture.
Tout à l'heure, dans la voiture, vous me disiez qu'il y a des articles qui ont été faits pour le cinquantenaire de l'anniversaire de l'interdiction des prêtres ouvriers. Vous me disiez, parfois je ne suis pas content, j'ai l'impression que de nouveau on cherche à amoindrir ça. Vous avez l'impression que l'Église aimerait quelque part effacer ça et...
Oui, certainement, effacer ça pour pouvoir dire de toute façon, on a repris des prêtres ouvriers, donc l'histoire des prêtres ouvriers a continué. Et aujourd'hui, il y en a encore.
Puisque après Vatican II, en 65, de nouveau, autorisation pour les prêtres ouvriers.
Oui, c'est ça. Mais enfin, à ce moment-là, avec des réserves, avec des recommandations de ne pas faire comme les premiers, ils n'ont pas rejoint ceux qui restaient. Ils ont gardé leur autonomie. Il n'y avait pas le droit de se syndiquer. Il n'y avait pas le droit de travailler plus de tant de jours, je ne sais plus, tant d'heures par semaine. Au fond, ils auraient bien aimé avoir au début un petit boulot chez un artisan, quoi, pour mettre en valeur la notion de travail. Et puis on mélange le travail et puis la paroisse et puis on reste des prêtres, quoi.
Vous me disiez aussi tout à l'heure, finalement, eux, ils sont pas. Enfin, c'est pas un jugement de valeur que vous posiez, mais en disant, nous, on est devenus autres. Cette génération-là de prêtres ouvriers, ils n'ont pas fait ce choix-là.
Ben, ils n'ont pas eu à faire ce choix-là parce qu'ils n'ont pas eu à vivre une rupture avec l'institution. Donc ils sont restés ce qu'ils étaient, en étant prêtres traditionnels, et en même temps au contact du travail et des ouvriers, et solidaires de leur lutte aussi d'ailleurs. Finalement, petit à petit, ils se sont trouvés dans la même situation, solidaires de leur lutte. Mais ils n'ont pas coupé le cordon, ils n'ont pas été obligés de couper le cordon avec la mère Église, si on peut dire, ce que fait tout enfant, devenant un adulte. Et peut-être que ce qu'on a fait nous a obligés à devenir adultes totalement, quoi.
C'est un beau cheval.
C'est un beau cheval sauvage. Il s'appelle Crin-Blanc. Il ne craint pas les orages, redoute les méchants. Il ne veut pas des richesses, des hommes tout-puissant.
Ils acceptent les caresses du soleil et du vent.
Grimblant ton galop. Ton galop est plus beau que celui des chevaux qui se sont laissés prendre, qui se sont laissés vendre. Ton galop va plus loin, Crimblant, il va très loin. Ils étaient tellement amoureux de la vraie liberté que les jaloux et les envieux voulaient la leur capturer. Il a fallu pour la sauver qu'ils l'emmènent au galop et qu'ils aillent la cacher au fond, tout au fond des flots.
Jean-Marie Huret nous parlera de sa foi, aujourd'hui à 80 ans. Une foi qui consiste plus pour lui à habiter, à creuser des questions, qu'à avoir des réponses figées. Si vous désirez commander un enregistrement de cette série d'Aveux d'Esprit ou nous faire part de vos remarques, vous pouvez laisser un message à notre répondeur, le 021 318 60 70, 021 318 60 70. Vous trouverez également sur notre site internet, www.rsr.ch/esprit au singulier, vous trouverez sur ce site une bibliographie concernant cette question épineuse des prêtres ouvriers. Bonne fin de soirée à vous et merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure.